Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous écoutez maintenant l'Oreille Curieuse sur le 101.5 de Radio G. C'est la quotidienne des actualités culturelles et locales. Le mardi, c'est le jour de nos partenaires et chaque deuxième mardi du mois, c'est le THV qui est avec nous, alias le Théâtre de l'Hôtel de Ville à Saint-Barthélemy d'Anjou. Pour ceux qui ne savent pas, début mars, il y aura une zone de turbulence qui s'arrêtera sur le THV. C'est le titre du festival qui s'adresse aux enfants de 3 mois à 99 ans et plus. On est sur un champ très large. Ensemble ce soir, nous rencontrerons les hommes ciseaux et leur lutterie sauvage grâce à la compagnie W3. Ils seront le 7 mars au THV. Nous parlerons également d'un jeune voleur prodige dont l'histoire est mise en scène dans Fly, Colton Fly, un spectacle qui sera lui joué le 3 mars. Derrière le micro, c'est Annelie et je suis accompagnée par Maud pour le THV. Bonsoir Maud.
Bonsoir Annelie.
Ça va ?
Ça va bien.
Au sein du THV, tu t'occupes de médiation culturelle.
C'est ça.
Pour les personnes qui ne sont pas là chaque mois.
C'est ça.
Avant de retrouver nos invités, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce festival, de cette zone de turbulence que vous avez imaginée ?
Alors c'est effectivement une première édition. Ça fait partie du nouveau projet qui arrive en même temps que notre nouveau directeur, Gurval Reto. Et ce projet, alors précédemment avec Brigitte Livenet, le projet du théâtre, c'était autour des arts du mouvement. Alors pour resituer un projet, en fait, c'est pas tant ce qui se voit dans la programmation des spectacles, puisque le THV reste un théâtre pluridisciplinaire, avec de la danse, de la musique, du cirque, des marionnettes, enfin de la chanson, tout quoi.
Le THV,
plein de choses. Dans l'émergence et pas forcément des vedettes, en fait. Voilà, beaucoup de choses à découvrir, plein de découvertes, c'est ce que je cherchais. Mais dans le fond, en fait, dans ce qui nous anime et dans ce qui nous occupe au quotidien, c'est-à-dire toutes les compagnies qu'on accueille en résidence, les compagnies qu'on soutient, les actions culturelles qu'on met en place. Alors l'action culturelle, c'est toutes les actions qu'on met en place envers les publics, les visites, les ateliers, tout ça. En fait, alors que c'était sur les arts du mouvement, ça va petit à petit s'orienter vers le jeune public. Alors le jeune public, c'est aussi très large, puisqu'effectivement, on l'a dit, c'est 3 mois jusqu'à... En fait, on est tous des grands-enfants.
C'est à partir de...
Voilà. Après, c'est quand même la blague est quand même jusqu'à 99 ans. Il s'avère quand même que là, les spectacles sont programmés à partir de 3 mois jusqu'à l'adolescence. C'est un festival pour l'enfance et l'adolescence. Parce que ce sont des créations, des compagnies qui, en fait, créent particulièrement pour ces âges-là. C'est pas pareil. En fait, je pense que les deux artistes qu'on va interroger aujourd'hui vont nous parler de ce que c'est que de créer pour des enfants. Et puis, parce que c'est des compagnies qui n'ont pas forcément la même visibilité, la même notoriété que la plupart des autres compagnies. Et donc, c'est une façon aussi de les mettre en avant. Voilà. Et c'est vraiment ce qui nous anime aujourd'hui. Toutes les compagnies qu'on accueille, tous les gens qui maintenant travaillent au théâtre sont des artistes qui œuvrent pour les jeunes spectateurs.
Qui ont ce lien-là.
Ouais.
Bon, donc la première zone de turbulence, c'est du 2 au 9 mars.
Et zone de turbulence parce que l'enfance turbulente et l'adolescence turbulence. Voilà, c'est un peu
bouillonnante.
Donc voilà, exactement. Donc on a envie que... Alors c'est une première édition, donc on a quelques spectacles et ça a lieu dans quelques lieux de la ville. Mais on a envie que, voilà, ce sera une biennale, donc ça aura lieu tous les 2 ans. Et on a envie que de 2 ans en 2 ans... Petit à petit, il y a des choses qui émulsionnent et qui en est de plus en plus partout, que ça devienne vraiment une turbulence dans toute la ville en fait, de Saint-Barthélemy.
Génial.
Ouais.
Bon, avant de retrouver nos deux invités, on écoute un morceau. C'est Mariama avec Raindrops.
Qu'on accueille vendredi pour la Saint-Valentin.
Oh, à 20h30.
Raindrops keep falling on my head. Raindrops, but I want sunshine instead. Raindrops keep falling on my head. Raindrops, why didn't you leave me with sunshine? Not happy like I used to be.
love falls on my head, all alone in my bed, wondering what could be wrong with me. Listen to the falling waters, secret lullaby. Keep falling, take a chance and dance along to the tapping song of life. I was racing and hiding, thoughts constantly colliding, afraid of my own insecurity, with no one left to blame for this losing game. Losing and these game. Cold showers pouring down on me.
Illusions, confusion, used to be. Illusions, confusion, used to be.
There's a streak of light on the horizon, will to strive in me that's rising. Let me catch this wave and I'll be riding. Give me thunder and lightning and raindrops falling on my head. Raindrops, but today I'm okay with that. Raindrops just falling on my head. Raindrops, maybe tomorrow the sun will shine again. Flowers bloom again, nothing to lose except the pain. Everything gained, everything gained. Stand still and feel the rain. See the flowers bloom again, nothing to lose except the pain. Everything gained, everything gained.
Alors, dans cette première partie d'Oreilles Curieuses consacrée au THV, on va maintenant parler de Fly Colton Fly, un spectacle qui sera joué le 3 mars. Alors, j'en profite pour rappeler peut-être aux auditeurs, auditrices qui ont écouté l'émission la semaine passée que peut-être vous avez entendu l'auteur du texte, Jali Barcilon. Et aujourd'hui, on est avec l'une des comédiennes et metteuses en scène de ce spectacle, Maude Ufnagel. Bonsoir. Bonsoir, Maude.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis très contente de pouvoir parler de ce spectacle de cette façon-là. Et je te laisse, Maude du THV, c'est toi qui as préparé l'interview.
Bonjour Maude. Donc
bonjour.
Vous êtes comédienne, marionnettiste et plasticienne au sein de la compagnie Et Compagnie.
Oui.
Et nous vous avons déjà accueilli au THV avec le spectacle Petit Pierre, il y a déjà quelques années de ça.
Oui.
Vous avez rencontré Maréva Carassou, qui est comédienne également, lors d'une collaboration artistique sur un spectacle qui avait été créé par Maréva.
Oui.
Et ce travail en commun
il
vous a donné...
Mal foutu.
Mal foutu, c'est ça. Et ce travail en commun vous a donné envie de continuer à travailler ensemble et même plus de créer ensemble, de jouer ensemble. Et c'est là que commence l'aventure de ce spectacle Fly Colton Fly, que nous pourrons donc voir en première internationale au THV le 3 mars. Et donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que va raconter ce spectacle?
Oui. Donc, du coup, on est parti d'un fait divers qui a un petit peu secoué l'Amérique dans les années 2000. C'est un jeune garçon qui s'appelle Colton Harris Moore, qui est né en 91, qui est né dans l'ouest des États-Unis, nord-ouest des États-Unis, dans la baie d'Orcas, vers Vancouver et Seattle. Et qui avait une obsession, c'était de piloter très jeune, de piloter un avion, qui a très tôt commencé à voler des voitures. On raconte qu'entre ses 10 ans et ses 12 ans, il aurait volé 60 voitures, et à 16 ans, il fugue de chez lui, donc après une enfance très difficile, dans une situation familiale catastrophique. Il fugue, il est placé en foyer, il fugue, il réalise son rêve de voler un avion en volant un avion. Il réalise son rêve de piloter un avion en volant un avion, donc pas des avions de ligne, mais des avions particuliers. Il a appris à piloter à partir de manuels et de tutoriels sur Internet, de simulateurs sur Internet. Donc il sait à peu près comment faire pour voler, mais pas pour atterrir. Donc après son premier vol, l'avion se crache, il s'en sort par un miracle. Et il est... il est recherché par toutes les polices de son état, qui ne réussissent pas à lui mettre la main dessus. Il recommence, il récidive, il revole un deuxième avion, pareil, qui pilote et qui crache à l'atterrissage. Il s'en sort à nouveau par miracle. Et là, il commence à être recherché également par le FBI. Donc, cette histoire, c'est un peu le tour des États-Unis. Donc, il va être en cavale pendant 2 ans. Et pendant ces 2 années, il aura volé 5 avions. Et 2 années de cavale où il échappe, où il met en déroute les polices d'État et le FBI. Et d'un autre côté, il a 80 000 fans sur Facebook. Voilà. Terrorise le bon citoyen américain parce qu'il rentre, comme il est en cavale, il rentre dans les villas de riches pour manger, il vide les frigos, il mange des pizzas, des glaces, voilà, comme un gamin de 16 ans. Et donc du coup, l'Amérique terrorise un peu l'Amérique. Il y a notamment dans son île, une battue qui s'organise, hein, une justice populaire qui s'organise au moment où les villageois pensent qu'il est revenu, pour lui faire la peau, puisque le FBI n'arrive pas à l'attraper. Donc c'est pas une chasse à l'homme, c'est une chasse à l'enfant, parce qu'à cette époque-là, il a pas 18 ans. Mmh. Et on est parti de ce moment-là, en fait, pour passer commande à Jali Barcillon, de ce moment où les villageois s'organisent en justice populaire pour attraper ce gamin. Et Jali a écrit donc une fiction qui met en scène les villageois, les proches de Colton, ceux qui organisent la battue, et à la fois ses proches, sa mère, un ami, et à la fois une agente du FBI envoyée sur le terrain, qui sait que la battue commence le lendemain et qui a 12 heures pour tenter de l'attraper avant que les villageois lui fassent la peau.
C'est donc voilà. Plein de suspense et de tension.
Oui, on a imaginé un petit peu cette pièce comme une série policière. Mmh. Voilà, et on travaille sur les ressorts de la série, qui est sur le suspense et la tension.
Et alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire ? Parce que vous l'avez dit, mais on va en parler aussi, mais c'est une commande d'écriture à Jali Barcillon, donc l'autrice.
Oui.
Du coup, ça veut dire que vous lui avez proposé ce thème.
Oui.
Et
oui.
Donc, en fait, mes questions, ça va être qu'est-ce qui vous a séduit effectivement dans cette histoire, et puis ensuite, quelle commande précise ou pas vous avez passé à Jali. Est-ce que c'est l'histoire de, enfin, parce que c'est pas l'histoire de Colton que la pièce raconte, c'est l'histoire de cette justice populaire. Donc, où ça se joue tout ça?
Alors, au démarrage, c'était plus globalement ce qui nous fascinait, c'était plus globalement. L'histoire de ce jeune homme. C'était la fascination qu'on peut avoir pour ce type d'histoire. Le fait qu'il ait eu 50 000 fans sur Facebook, son insolence, c'est une histoire qui bouscule, qu'on a envie de... À chaque fois qu'on l'a eu raconté, aussi bien à des adultes qu'à des enfants, les questions ont afflué. Comment il a fait, est-ce qu'il volait les avions de jour, de nuit, et tout d'un coup, c'est une figure qui questionne, qui rassemble de manière très populaire. Pour nous, Colton cristallise un petit peu la notion de héros, et qu'est-ce que c'est qu'un héros aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est qu'un héros... qu'est-ce qu'un héros et un anti-héros, et comment ça se fait qu'un jeune garçon qui dépasse les limites, donc des limites physiques et intellectuelles, puisqu'il a réussi à piloter un avion alors qu'il n'avait pas les années d'études qu'il faut pour arriver à faire ça, et à la fois qui dépasse des limites légales. Et comment cette insolence-là fascine, au-delà même de l'aspect légal de la chose.
Et moral.
Et moral, oui.
Et du coup, quand vous passez commande à Jali, c'était d'abord sur l'histoire, c'est ça, de Colton?
Oui.
Et en fait,
oui,
ça a évolué après.
Bah, c'est dans les discussions avec elle qu'on a décidé de recentrer en fait, l'action sur ce moment-là.
Et alors, qu'est-ce qu'on va... Pardon, allez-y.
Ce moment-là où se cristallise, en plus de la question du héros, la question de la justice populaire.
Ouais. Et alors, si on voit pas l'histoire de Colton, on voit donc sur scène, on voit, vous avez dit, la famille, l'agente du FBI, les villageois, mais il me semble que les spectateurs ont un rôle dans ce spectacle.
Alors, ils sont, on a décidé, comme c'était une histoire, quand on fait une histoire populaire, de rassembler les spectateurs dans un lieu, de rassemblement d'urgence, un lieu qui pourrait être un lieu de rassemblement d'urgence hors du théâtre, et pour créer un dispositif où les spectateurs sont pris dans le dispositif scénique. Donc on a une scène de 4 mètres sur 4, rehaussée, avec une scénographie derrière qui continue un petit peu dans le spectateur. En tout cas, pour créer la sensation pour le spectateur d'être à l'intérieur même de la scénographie. Mais les spectateurs n'ont pas de rôle. C'est nous qui jouons les rôles.
Oui. Peut-être que eux aussi se posent la question de est-ce qu'ils sont fascinés ou est-ce qu'ils sont terrorisés par ce jeune garçon.
C'est un petit peu ce qu'on a envie, oui.
Effectivement, vous pouvez pas le savoir puisque vous l'avez pas encore créé, donc ça va être la surprise de oui. Comment les spectateurs vont réagir.
Voilà.
Et alors au plateau, donc je l'ai dit, vous, enfin en tout cas pour Petit Pierre, vous êtes marionnettiste, plasticienne, en plus d'être comédienne. Et pour Petit Pierre, alors je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu ce spectacle, mais sur le plateau vous racontiez l'histoire de Pierre et qui a fabriqué un manège, enfin je sais pas si on peut dire un manège, mais quelque chose de
oui,
un peu de l'ordre du facteur cheval. Et donc sur scène, vous découpiez en direct des plaques offset et il y avait oui. Voilà, une sorte de manipulation d'objets. Est-ce qu'il y a des oui. choses de cet ordre-là dans Colton, enfin dans Fly Colton?
C'est plus ténu, il y a beaucoup de papier, il y a des accessoires qui prennent une place assez importante, mais il y a beaucoup moins que sur Petit Pierre, quelque chose de plastique qui se déploie. La scénographie qu'on a pensée avec Laurent Cadillac, qui est plasticien, est très forte et très prégnante et vraiment englobe. Enfin, on voulait cette sensation pour les spectateurs qu'ils soient englobés dans la scénographie. Donc il y a des fausses perspectives, il y a tout un travail sur l'espace qui, on espère, créera cette attention particulière-là. Donc c'est là où le côté plastique, j'espère, trouvera sa force. Il y a un travail plastique, mais qui est beaucoup plus ténu.
Et alors, c'est donc une création en commun à deux comédiennes avec des univers différents, nécessairement, en tout cas, ce qui habituellement sont les vôtres, sont propres à chacune. Comment ça se passe, cette collaboration et puis la répartition entre vos rôles de comédienne, de metteuse en scène, comment ça a fonctionné et comment ça se passe?
Ça se passe très bien et ça se passe complètement en duo. On fait vraiment les choses ensemble. Au niveau de nos parcours, Mareva a commencé par un parcours de comédienne et elle est arrivée à la marionnette après. Moi, j'ai commencé par un parcours de marionnettiste et je vais de plus en plus vers le jeu. Donc ça, c'est ce qui fait un peu nos différences de parcours. Au jour d'aujourd'hui, on se répartit pas les tâches. On fait vraiment les choses ensemble. Au début, par exemple, on essayait de se répartir la tâche sur les choses à écrire, les dossiers. Et puis finalement, on a eu beaucoup, vraiment plaisir à écrire ensemble, à écrire à quatre mains les dossiers, les notes d'intention. Et tout se continue à se faire vraiment à quatre mains.
C'est super.
Ouais. Donc il n'y en a pas une qui est plus comédienne, une plus marionnettiste, il n'y en a pas une qui est plus metteur en scène et l'autre plus sur le plateau. Et pour ça, du coup, on a fait appel à une troisième metteur en scène, qui est donc collaboratrice à la mise en scène, qui est à l'extérieur et qui là nous dirige. À partir des... Donc il s'appelle Maya Rico, qui vient plutôt du théâtre de rue. Et voilà, maintenant elle a les cartes en main avec tout ce qu'on a... amassé depuis le démarrage d'envie, de désir, d'idées. C'est elle qui nous dirige et qui mène la barque.
Et alors ce spectacle, il est adressé à partir de 12 ans, c'est-à-dire que c'est un spectacle pour les adolescents. Alors, c'est pas votre première création pour l'enfance et la jeunesse. Est-ce que c'est, qu'est-ce que ça change de créer pour les, voilà, pour les enfants, pour les adolescents? Ça vient de quelle envie de votre part? Voilà.
Bah, au départ, et ça, c'est quelque chose qu'on a de commun avec Mareva, ce qui nous meut au démarrage, c'est un texte ou une histoire. Et après, l'envie, c'est l'envie de faire un spectacle à partir de ça. Donc, au départ, moi, c'était Petit Pierre. Mareva, ça a été cette histoire des Malfoutus, qui est un album de Béatrice Alemania. C'est ça qui nous meut au départ. Et après, on se pose la question de à partir de quel âge ce sera visible. Mais c'est plus à partir de quel âge.
Bien sûr.
Là, l'histoire est compliquée, peut être assez dure à recevoir. Et donc, on dit à partir de 12 ans. Mais on ne cible pas un public adolescent. On s'est dit que c'était une histoire qui toucherait les adolescents. Mais c'est un spectacle, on fait un spectacle qu'on a envie de faire. Pour Petit Pierre, c'était pareil. J'ai eu envie de monter cette histoire. Et après, je me suis dit à partir de quel âge ça sera accessible.
Et le fait que ce soit quand même pour les adolescents ou pour les enfants, ça ne change pas la façon dont vous travaillez?
Moi, non. Et Mareva, je pense pas non plus. C'est plutôt à partir de... on ne se dit pas c'est un spectacle pour les adolescents, on se dit c'est un spectacle à partir de 12 ans. En dessous de 12 ans, les enfants sont trop jeunes pour recevoir cette histoire-là. Soit ça ne les intéressera pas, soit ça peut... éveiller des choses qui n'ont pas à être éveillées à cet âge, des questions qui n'ont pas à être forcément bousculées à cet âge-là. Donc on dit à partir d'eux, mais après, on le pense comme un spectacle pour tout le monde, quoi. Aussi bien pour les adultes que pour les adolescents. Du coup, on ne fait pas des choses spécifiquement pour les adolescents. Comme pour Petit Pierre, pendant la création, on n'a pas réfléchi à qu'est-ce qui intéresserait les enfants. C'est un spectacle qui nous plaisait. En sachant que des enfants le verraient, donc du coup on a laissé libre cours au côté ludique de l'histoire et au côté plastique, ludique et plastique. Et là dans Colton c'est un petit peu la même chose. On a en tête que ça va être vu à partir de 12 ans, mais on n'a pas une cible d'âge.
Ça tombe bien, puisque si, c'est très clair, ça tombe bien, puisque vous êtes dans un festival, effectivement, à partir d'eux, où on le disait, vous n'étiez pas à l'antenne, mais on le disait, c'est pour les enfants. Alors là, en l'occurrence, c'est un festival pour les enfants à partir de 3 mois, puisqu'il y a des spectacles pour les 3 mois, mais jusqu'à 99 ans, en fait. Au moins, jusqu'à la fin, quoi. Merci beaucoup, Maud, d'avoir répondu à nos questions. Et donc, on
Merci
se retrouve au THV le mardi 3 mars à 19h pour la première tout public, en sachant qu'il y aura une scolaire avant, mais la première, vraiment première, voilà, ce sera ce jour-là. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Non me fa la sempre cella canatella o canatella. Canatella, oi canatella, dai audienza stusche fienze sciù che sta sempre attorno a te. Canatella, oi canatella, canatella, oi canatella. A me tocca fa oggi meo, ma chi ha feo no, non ci so. Ma chi ha feo no, non ci so. So scegato, so stonato, ca la sciorta cusi bo. Canatella, oi canatella, canatella, oi canatella. Uff. fra casă simt ce face, că ne cace, dice tu, că ne cace, dice tu. Mamă își bată mării notă, quando polo un posso più, canatella, 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 oi canatella. Gioia mia, o son io e chi lo l'ha, o son io e chi lo l'ha, si non sceglia chi te piglia quando sangue scorrerà, canatella, o canatella.
Vous écoutez Radio G et l'oreille curieuse qui est consacrée ce soir au THV. Le titre qu'on vient d'entendre, c'était Canatella de La 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 Napoli et ils seront au THV le 27 mars. On retourne dans Zone de Turbulence, le festival qui va avoir lieu début mars et qui s'adresse aux enfants à partir de 3 mois et sans limite d'âge, c'est-à-dire à tout le monde, à tous les êtres vivants et humains. Le 7 mars, vous pourrez découvrir les hommes ciseaux de la compagnie W3. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Sanson.
Sanson, c'est ça.
Sanson, ouais. Merci, j'ai pas dit de bêtises.
Non, non, c'est ça.
Merci beaucoup Nicolas, tu es comédien et musicien au sein de cette compagnie.
Ouais.
Et puis tu fais aussi plein d'autres choses, du chant, de la composition.
Ouais, 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 mais c'est, comédien c'est pas ma première, moi je suis plutôt chanteur. Et là effectivement dans ce spectacle-là on danse aussi. On danse parce qu'on a été accompagné par une danseuse aussi dans la mise en scène et dans la mise en forme du spectacle. Et puis on fait de la musique, donc oui, musicien. Et comédien, d'accord, je prends.
Art de la scène.
Ouais, ouais, j'ai non mais ça va, c'est pas un gros mot, comédien.
Je reviens un peu sur l'histoire de la compagnie W3, pour parler de ces hommes ciseaux. C'est une compagnie qui est née en 2012, avec le spectacle Wild Wild Wagon.
Ouais.
Et vous exploriez déjà la lutherie sauvage, on va en parler, on va y revenir. Et au cœur du projet de la compagnie, il y a l'idée d'explorer les frontières entre la vie quotidienne, la création, l'art, la distance entre artistes et spectateurs. Comment toi, tu le raconterais ?
Expliquer ça ? Ouais. C'est que quand on fait de la lutherie sauvage, en fait, on est toujours en éveil des sons qui viennent du quotidien. Voilà, on n'est pas non plus à taper sur des casseroles dans notre cuisine. Tu vois, comme dans les pubs là, du Saint-Hubert 41, tu vois. C'est pas ça, mais quand même, quand il y a des sons, des fois, on s'arrête, il y a un son qu'on entend soit dans la ville, soit dans la nature, soit... Et voilà, et ça nous fait écho à notre pratique.
L'idée de la lutherie sauvage, c'est de créer des instruments avec des choses qui n'étaient pas prévues.
Ouais, c'est d'aller chercher la musique là où elle n'est pas, quoi. C'est ça, et puis c'est pas... Il y a plusieurs courants dans la lutherie sauvage. Il y en a qui vont fabriquer des instruments qui ressemblent à des vrais instruments, avec... pas le même matériau, voilà. Nous, on n'est pas dans cette démarche, elle est très bien aussi, hein, mais on est dans celle d'aller chercher des sons dans des matériaux sans pour autant que ça ressemble à un vrai instrument, quoi. Voilà, c'est cette recherche-là. Et après, la frontière avec le public, tu me posais la question. Ça, c'est parce qu'en fait, nous, notre scène, elle s'arrête pas sur scène, justement. La partie publique fait partie de la scène et on va dedans et ils viennent sur scène aussi le public
et puis avec ce premier spectacle vous étiez dans la rue.
Ouais,
donc
on était
du
dans
coup
la rue.
Voilà, c'était il y avait pas de rapport au plateau en
non.
plus donc
ouais,
c'était
ouais,
vraiment
c'est le
pour
premier
eux,
spectacle
quoi.
C'est vrai, t'as raison. Là c'est le premier spectacle, on est vraiment sur scène donc du coup on a du mal à y rester.
Et vous arrivez à rester sur scène?
Non, justement, on va dans le public et on invite le public. Enfin, je ne sais pas tout, mais il ne faut pas que je divulgâche. Mais quand même, c'est pour l'idée qu'il n'y a pas de frontière entre le public et nous et qu'il n'y a pas non plus de frontière entre le moment où on commence à faire de la musique ou on s'arrête. Tu vois, on est tout le temps dans ce truc-là. Il n'y a pas vraiment de fin, il n'y a pas vraiment de début. C'est des choses qu'on aime bien, ça.
C'est des choses que vous pratiquez au quotidien, c'est de faire sonner des objets.
Ouais, ouais, ouais.
Et alors donc votre dernière création, la première sur scène dans un théâtre, c'est Les Hommes Ciseaux. Et dans cette pièce, on va suivre deux personnages qui sont ensemble dans un univers de papier. Qui sont ces Hommes Ciseaux et qu'est-ce qu'ils font ?
On ne sait pas vraiment qui ils sont. Et c'est un spectacle sans parole. Donc l'histoire n'est pas celle de ces Hommes Ciseaux. L'histoire de ces... qu'est-ce qu'ils vont faire justement avec ce ciseau, comment ils le déchirent, qu'est-ce qu'ils fabriquent avec. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est, les Hommes Ciseaux, c'est quand même aussi un peu des hommes, c'est dans le titre, qui finalement, petit à petit, je crois qu'on peut se dire qu'on peut, on peut leur ressembler. Quoi. Tu vois, c'est pas forcément une espèce à part entière, c'est aussi un petit peu des hommes. Mais on a quand même des ciseaux sur les mains, et qui sont grands.
Et que vous gardez pendant tout le spectacle ?
Bah ouais,
ils font
on
partie
des Hommes Ciseaux.
C'est leur corps, en fait.
Donc en fait, si tu veux, il faut imaginer, c'est difficile à expliquer, mais ils sont grands comme ça, tu vois, c'est
donc
très...
ça fait à peu près...
un bras en plus,
30
un avant-bras en plus.
C'est nouveau, ça.
Ça fait à peu près 30 cm, 35.
Grâce à Maud, ça, qu'ils sont plus grands. Ils ont grandi depuis la dernière fois. Avant, ils avaient une taille de ciseaux normale, et là, ils ont grandi, parce que les Hommes Ciseaux, ils grandissent aussi. Du coup, les ciseaux, ils ont grandi avec. Et ils sont toujours avec nous parce qu'on peut pas s'en... Enfin, on n'a pas envie de s'en
débarrasser. C'est Edouard Romain d'Argent, mais juste avec une paire de ciseaux.
Ouais, voilà, c'est ça.
Waouh, et au théâtre, et en vrai.
En vrai.
Voilà. Et du coup, je peux pas répondre à la question qui sont les Hommes Ciseaux.
Mais qu'est-ce qu'ils font ?
Je sais pas non plus. Ils s'amusent, c'est des joueurs.
C'est des joueurs.
Donc, on est joueurs d'instruments, tu l'as dit, on est musiciens, mais il n'y a pas que des instruments de musique qui sont fabriqués avec du papier. Alors, c'est le cas, il y a des claves, des flûtes, des sifflets, enfin, plein de choses qui font du son. Il n'y a rien que le fait de froisser du papier, ça fait toujours du bruit. Mais on a aussi c'est aussi des joueurs parce qu'ils font des. Bah voilà, avec des papiers, on a tous fait des jeux avec du papier, ne serait-ce que des avions, ne serait-ce que. Voilà, là, il y a des hélicoptères, il y a des petits jeux, quoi. Donc, tout ça, c'est des joueurs, quoi. C'est des joueurs et c'est des luthiers. Et donc, du coup, ils se servent de ce papier. Et plus ça va, plus il y a du papier sur scène. Et voilà, c'est à profusion. Ils ne peuvent pas s'empêcher, quoi. C'est leur,
c'est leur
nourriture, quoi.
Ouais. Ouais. Et pourquoi, justement, avoir voulu travailler avec du papier, avec cette matière-là et uniquement celle-là ?
Ouais, il n'y a que du papier. Il y a différentes sortes de papier. Mais il n'y a que du papier. Alors pourquoi on a voulu travailler qu'avec du papier ? Oh là là. Je ne sais pas pourquoi. En fait, on ne l'avait pas fait. On avait fait des matériaux de récupération. Ça, c'était le premier spectacle dont tu as parlé. Le deuxième spectacle, on l'avait fait avec des matériaux vivants. Enfin, pas vivants, mais issus d'être vivants.
Des plantes,
restes d'animaux, restes de végétaux. Mmh. Voilà. Et puis, là, on est parti sur le papier. Je ne sais même plus pourquoi.
Peut-être pour explorer une autre matière, quelque chose
que
vous n'aviez
pas fait. Ouais, c'est un truc qu'on n'avait pas fait, ouais. Et puis, je sais pas, c'est le truc qui est en profusion tout le temps. Ah si, ça y est, je me rappelle pourquoi. On était parti du livre, en fait, à la base. Et on a dérivé depuis. Comme quoi, tu vois, des fois, tu poses des questions. On était parti du fait que le livre, c'était quelque chose, un média. Et qu'on avait imaginé que ce livre, on pouvait aussi le déchirer pour raconter une autre histoire. Et d'utiliser le papier, pas avec des mots marqués dessus, mais que le papier soit vivant. Et
en tant que matériau,
ouais.
En tant que... le redécouvrir aussi comme...
Comme un enfant découvre un livre. On était parti de ça à la base. C'est aussi pour ça qu'on est resté dans le jeune public, parce que c'était l'enfant qui découvrait le matériau livre. Comme nous aussi, on a des enfants, ce qui... Voilà, c'est comme ça, c'est un hasard. On voit bien que l'enfant, quand il découvre un livre, il ne le lit pas d'abord,
il le mâchouille.
Ouais, il le mâchouille, il le déchire même, hein. Enfin voilà,
il
déchire, on est obligé d'aller à la bibliothèque et dire « Ah, il a déchiré le livre hein. !» Et donc voilà, on est parti de ça. Alors après, ça a vraiment dérivé, tu vois. Mais peut-être c'était ça le truc de départ.
Et de jouer aussi comme des enfants ou de nous mettre comme des enfants en tant que public.
Ouais. Donc c'est de là que vient le papier.
Et moi, je me suis demandé, j'ai pas vu le spectacle, mais je comprends que vous fabriquez avec vos mains, ciseaux, plein d'objets, des instruments. Toutes les choses avec lesquelles vous travaillez, avec lesquelles les personnages évoluent, sont faites pendant le spectacle ?
Alors, c'est fabriqué en direct. Ouais. Bah ouais, et en plus, on peut pas... on ne pourrait pas faire des choses avant et le garder pour tous les spectacles, parce qu'en fait, c'est du papier. Et quand tu souffles dans du papier, ça le mouille et tout, et en fait, ça ne dure pas très longtemps. C'est vraiment des instruments éphémères. Donc oui, tout est fait sur scène. Après, il y a des petits trucs, mais c'est la magie du spectacle, quoi. Il y a des trucs, des fois, si on faisait tout, Le truc, il durerait 3 heures. Donc,
ça dure 40 minutes.
Ouais. Donc, on est obligé, par exemple, des fois, de fabriquer des tubes, mais ces tubes-là, on va les modifier sur scène. Mais rien que le fait, si on fabriquait tous les tubes sur scène, bon, ça nous prendrait trop de temps. Ça, ce serait très intéressant. Ouais, mais voilà. Mais en gros, oui, le son est fabriqué sur scène. Et, ça, je peux le dire.
Et il y a aussi donc une part d'imprévu. Enfin, forcément, est-ce que ça change à chaque oui. spectacle ? Vous redécouvrez aussi les.
Oui, la lutherie sauvage, c'est ça, c'est aussi des grands moments de solitude.
Parfois, ça sonne pas comme.
Mais ouais, des fois, ça peut ne pas sonner. Après, là, ça a été. On n'a pas eu de grosses surprises là pendant. Mais ça peut arriver, ouais. Bah ouais. C'est assez fou ça. Et on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça aussi la lutherie sauvage.
Et du coup, vous réagissez comment ? Vous faites quoi ?
Eh ben. C'est pas très grave parce que je crois qu'il suffit de l'accepter. Oui. Maintenant, on l'accepte. Au début, c'était flippant, c'était vraiment stressant, mais maintenant, on accepte ça. Si le son il sort pas, de toute façon.
C'est le spectacle vivant, la fragilité ça. Des choses. Mmh. Ouais, c'est pas grave. Mais voilà, c'était savoir comment est-ce que vous en sortiez. Ouais. Comme quelqu'un qui oublie un morceau de son texte, quoi.
Ouais. Bah ouais, non, mais c'est un peu ça. Hein. Bah, oui. C'est un peu le trou noir du comédien.
Et moi, je me suis demandé aussi, dans la compagnie W3, vous avez majoritairement des formations de musiciens. Mmh. Vous maîtrisez toutes ces choses-là de solfège, choses auxquelles je ne connais pas grand-chose, et de son. Pourquoi vous avez eu envie de faire de la lutherie sauvage, de tordre un peu, j'avais l'impression, ces apprentissages, ces techniques ?
Mmh. Ah là là. Tiens, tu vois, je vais avoir un trou noir, là, c'est pareil. Pourquoi on a eu cette envie-là de faire la lutherie sauvage ? Je sais pas quoi répondre, mince.
Bah peut-être parce que vous êtes des bricoleurs, parce que vous êtes allés chercher...
Que... On est devenus bricoleurs grâce à ça, mais... Ah là là, non, je sais pas.
Ou pour jouer.
Oh. Ouais, peut-être.
Peut-être.
En tout cas, il n'y avait pas de but, pardon, je trouve pas.
Même
pour, je
tu
sais
te
pas
souviens
répondre.
Pas pour le wagon, ce qui vous a amené au wagon au début ?
Bah non, je me souviens pas, c'était... Non. Non, non, je me souviens pas.
Et c'est pas grave.
Ouais. Non, c'est pas grave.
En tout cas...
Je reviendrai pour parler de ça.
Oui, peut-être ça va revenir dans l'interview. Et en lien avec les hommes ciseaux, il y a aussi un atelier. Enfin, la transmission, elle est aussi très importante dans le travail de la compagnie W3, d'avoir des moments de partage, de partager ses recettes de pliage, de manipulation.
Ça, c'est aussi dans la lutherie sauvage. C'est comme le fait que ça marche pas à chaque fois. Ça fait aussi partie intégrante de la lutherie sauvage. C'est-à-dire, c'est pas de la magie. Il y a jamais tous ceux qui font de la lutherie sauvage, ils font des bouquins, ils expliquent comment ils font des vidéos.
Il y a pas de secret.
Non, il y a pas de secret. C'est pas, il y a pas de truc en fait. Même si, quand t'as le truc, finalement, c'est pas si facile à faire sortir le son.
Il y a des techniques.
Mais ouais, il y a quand même des techniques et il y a quand même une pratique pour y arriver. Mais il n'y a pas de secret, par contre, ça a toujours été ça, la lutherie sauvage. Il n'y a pas de. Bah, je te dirai pas, j'ai fait une flûte en papier, tu ne sauras pas comment je fais. Donc c'est vraiment. Et même, même dans le spectacle aussi, quand je te disais qu'il n'y avait pas de frontières, c'était que aussi dans les spectacles, depuis le début, il y a toujours un moment où il y a une manipulation par le public ou alors qu'il y a des instruments qui sont laissés à disposition, ou voilà. Enfin, donc c'est pas, y a pas de frontière de ça. C'est naturel qu'il y ait des ateliers finalement.
Ouais. Et Maud, est-ce qu'on peut encore s'inscrire à l'atelier lutherie sauvage ?
Il reste de la place. Je vais dire, tu as les dates, non ?
Oui, c'est le 13 mars de 18h à 20h, et c'est pour les duos enfants-parents.
C'est enfin enfants-adultes.
Enfants-adultes.
On s'est dit que c'était un chouette moment à partager, de mettre que des enfants, mettre que des adultes. Bon. Mais mettre des enfants et des adultes ensemble, un oncle avec son neveu, ou voilà.
et alors, comment ça se passe ? Est-ce que quand vous faites ces ateliers de transmission, Nicolas, vous venez avec déjà, on va faire tel et tel objet, ou vous cherchez avec les participants ?
Ça dépend vraiment des ateliers. Il n'y a pas d'atelier clé en main, ça se discute avec ceux qui nous accueillent pour les ateliers.
Ouais.
Et là, il y a différents moments d'atelier avec le THV.
En avez fait un samedi.
Ouais, voilà. Et puis, il n'y a pas que en relation avec ce spectacle-là, c'est-à-dire qu'il y a aussi avec la
maison d'arrêt.
Ouais, je sais pas si on peut en parler déjà, tu en avais déjà parlé ou pas ?
Non,
ouais.
J'en ai pas parlé, mais voilà, c'est un projet qui est en train de se construire avec la maison d'arrêt où il y a peut-être, on sait pas, c'est encore en cours, hein, mais peut-être des ateliers avec les papas détenus, et donc il y a aussi un moment de transmission avec les enfants de... Voilà, où là, vous avez défini déjà des choses que vous construirez, mais en fait, effectivement, on a discuté de chacun des ateliers qu'on organise pour savoir ce qu'ils allaient y faire.
C'est-à-dire que tu fais pas la même chose quand t'es... Quand c'est prévu aussi, il y a un temps avec des adultes, ou quand c'est que des enfants, ou alors c'est après un spectacle par enfant, voilà, enfin, c'est jamais la même chose. Ouais.
Ouais. Et là, pour cet atelier duo, vous savez déjà un peu où c'est surprise et faut venir. Vous verrez.
Non, c'est surprise.
C'est surprise.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de papiers.
Ouais.
Si on peut dire quand même.
C'est en lien avec la programmation dans le cadre du festival. Donc, ouais.
Et peut-être pour finir, enfin, moi je me demandais aussi comment ces moments d'échange, de transmission, ils nourrissaient le travail de la compagnie W3.
Ah ouais, ça le nourrit parce que même quand on fait des spectacles et qu'on est accueilli en résidence dans des lieux, on ouvre aussi aux enfants, donc sur des temps de construction, mais aussi sur des temps de spectacle. Et il y a des choses, notamment dans les hommes ciseaux, qui sont issues de rencontres avec des enfants, ouais. Qui me disent, mais pourquoi tu prends pas l'instrument comme ça et que tu fais ça, donc voilà. Donc de toute façon, la démarche des enfants, c'est la nôtre quand on fait de la lutherie, vu qu'on veut pas reproduire des instruments qui existent, on est toujours en train de chercher. Et du coup, ouais, il y a des choses qui arrivent, c'est pas non plus, ça nous fait pas faire des sauts de fou, mais c'est ce petit moment magique qui me fait dire, ah ouais, tiens, t'as eu cette idée-là, ok, je prends.
Ouais.
Donc ouais.
Génial. Maud, je ne sais pas si toi tu avais des questions.
Non, peut-être parler un peu de l'ambiance au plateau. C'est une ambiance. Enfin, comment est-ce que tu pourrais décrire sur ce qui se passe sur scène, pour que, parce que tu disais que tu n'avais pas envie de divulguer les choses, mais pour ça permet aussi de se projeter, de se dire qu'est-ce qu'on va. Donc, on sait qu'il va y avoir un moment d'échange, voilà.
Ouais.
Mais voilà, c'est quoi l'ambiance au plateau? Ces hommes ciseaux, on est dans quel monde?
Alors, on est. C'est assez petit au départ, je pense, sur scène. Et plus ça va grandir. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'étend. Ça va s'étendre. Il va y avoir du papier de plus en plus. Il y a une profusion. Et puis, peut-être qu'il n'y en aura pas tout le temps aussi du papier. Mais il y a cette profusion qui amène une profusion de jeux, de choses qui volent dans l'air.
Ouais, il y a vraiment la jouissance du jeu. Il y a un truc joyeux.
Voilà, il y a des rires, hein, il y a des rires avec le public, il y a des choses qui sont envoyées dans le public, il y a des choses que le public nous renvoie. Voilà, et puis c'est des alternances de... Moi, je trouve ça assez poétique quand même. Enfin, pas quand même, ça l'est. Comme je disais tout à l'heure, les hommes ciseaux, ils n'ont pas la parole, ils ont le souffle, mais ils n'ont pas la parole. Il y a des moments de rythme. C'est-à-dire que ces hommes-là, ils découvrent le papier, pas parce que... C'est pas comme s'ils venaient juste de le découvrir, ça fait partie d'eux, mais petit à petit, ils vont mettre en place du son. Alors ça va passer par le rythme d'abord, et ensuite ça va être de la mélodie. Donc il faut s'attendre à entendre aussi des mélodies avec du papier. Voilà, et puis c'est la fête.
Ouais.
C'est la fête du papier. Voilà.
Et c'est bien, le papier, c'est une matière géniale.
Ouais.
Je me demandais aussi, on peut voir le spectacle à partir de 4 ans. Mm. Est-ce que vous, je pique la question de Maud de tout à l'heure. Mm. Est-ce que vous créez ou est-ce que vous imaginez les choses d'une certaine façon en sachant que vous vous adressez à des plus jeunes, à des enfants?
Ouais, alors ça, c'était assez nouveau pour nous. C'était la première fois qu'on estampillait un spectacle à partir de 4 ans. Nous, c'était toujours tout public. Mais là, ça reste, hein, c'est à partir de 4 ans, je sais plus comment on a marqué ça.
Ouais, nous, on met toujours à partir de... Enfin,
ouais,
voilà. À partir de toute façon.
On a marqué à partir de 4 ans et tout public, quoi. En fait, c'est pour tous les gens, quoi. C'est juste qu'avant, il y a peut-être des images qui pouvaient être impressionnantes, qui pouvaient faire peur, mais finalement, est-ce qu'on a adapté les choses? Ouais, je pense qu'un peu, Ouais, si. Bah oui. Ouais. Je sais pas trop comment expliquer ça, parce que je suis pas un spécialiste de la petite enfance. Mais en tout cas, on n'a pas...
Et c'était pas... Est-ce que c'était une volonté à l'origine de faire pour les enfants? Oui, tu disais que vous étiez parti du livre.
Ouais, on était parti du livre.
Donc vous aviez envie de faire un spectacle pour les enfants.
L'origine, c'est plus notre enfance à nous. Mais après, ça s'est dérivé sur le fait de se dire c'est logique que ce soit en petite enfance. Et puis, ça a pris ce chemin-là. Et des fois, on a fait des sorties de spectacles et on faisait un extrait. Et voilà, on a eu des retours aussi de se dire ça passe pas pour... Bon, après, on n'a pas pris tous ces retours-là. On a gardé quand même des choses qui peuvent aussi être impressionnantes. Mais
ça fait partie du jeu.
Ouais. Faudrait en parler avec des professionnels de ça. Parce qu'il y en a qui, c'est vraiment leur cœur de truc et c'est pas le mien. J'espère qu'on fait les choses bien, en tout cas. Enfin, voilà, on a fait pour, quoi. Mais j'ai pas envie de divulguer... j'arrête pas de dire divulguer. Je vais pas vous donner une théorie de la petite enfance, parce que je suis pas fort.
Non, mais par contre, de votre envie de faire un spectacle pour les enfants, ça c'est...
Oui.
Tu vois, c'est intéressant aussi. Ce que vous faisiez, même si c'était tout public, mais là, clairement, vous avez envie de jouer pour les enfants. Ça change un peu les choses.
Ouais, je pense que ça change les choses, ouais. C'est juste pas théorisé, c'est pour
non,
ça.
Non, mais c'est pas grave, c'est bien aussi.
Ouais, je vais redonner les dates du spectacle. Merci beaucoup, Nicolas.
De rien.
parce que le temps est déjà passé. Donc c'est avec la compagnie W3 et c'est la dernière création, Les Hommes Ciseaux. Ce sera le 7 mars, c'est un samedi à 16h au THV bien évidemment. C'est à partir de 4 ans, on l'a dit, et ça dure 40 minutes.
Et il y a de la place.
Il y a de la place, ouais. Et on peut encore s'inscrire aux ateliers, le mieux c'est de faire vite.
Ouais, tout est, vaut mieux tout faire vite, mais il y a de la place partout.
Merci beaucoup.
Merci.
Four thousand years, that's all the time we've been left alone.
C'est la fin de l'émission consacrée au THV. On se redonne les infos importantes, Maud.
Alors, on a parlé du festival Zone de Turbulence qui aura lieu du 2 au 9 mars au THV et à Saint-Barthélemy d'Anjou dans différentes salles. Et vous pouvez d'ores et déjà acheter les places pour tous les spectacles sur le site du théâtre et puis voir tous les autres spectacles puisqu'on en a, on a parlé de deux et qu'il y en a 10. Donc, voilà.
Donc, grand rendez-vous et qu'on retrouvera dans 2 ans.
Ouais.
Aussi. Mais bon, on va déjà savourer la première édition de Zone de Turbulence. Merci beaucoup, Maud.
Merci.
On se retrouve avec le THV le mois prochain. On sera le 10 mars. Voilà, on se retrouve chaque mois. Et nous, on se retrouve demain à 18h10, bien sûr, pour la prochaine de l'Oreille Curieuse. À 19h, là, tout de suite, dans quelques minutes, ce sera Funkadelica. Bonne soirée à tous et à toutes. À demain.